Alors, je vous propose d'abord de voir une image assez stéréotypée, l'image de l'hôtesse de l'air des années 70, avec la fameuse chanson de Dutron, on va passer sur les paroles, et puis évidemment la bande dessinée assez connue, Natacha, hôtesse de l'air. C'est un stéréotype qui est évidemment qui est courant en France, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'en fait, il ne provient pas en fait à l'origine de l'image qu'on aurait, par exemple, d'une hôtesse d'Air France. Alors, d'où ça vient? En fait, le phénomène de l'hôtesse comme objet sexy ou de fantaisie est un phénomène transnational. Donc, ce serait peut-être plus intéressant à la limite de faire une histoire transnationale de l'image des hôtesses. Notamment, les compagnies américaines ont fait des uniformes absolument incroyables, qu'ils soient en papier ou autre chose. Mais pourquoi choisir Air France alors? Air France est en fait une compagnie nationale, et donc à ce sujet tente de projeter en fait une image nationale, une image idéale de. Et ils l'ont dit eux-mêmes dans les années 40 quand ils commencent à chercher des hôtesses de l'air, une image de la femme française. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir en fait qu'est-ce qui représente la femme française. Alors on pourrait faire aussi une histoire comparative. Les Japonais, Japan Airlines évidemment, avaient notamment les hôtesses en kimono. Les Allemands, Lufthansa, ont même essayé une ou deux fois les hôtesses avec des robes de la Oktoberfest, la fête de la bière. C'était très court, mais ça existait effectivement. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir s'il y avait en fait une espèce de trait directeur. Alors, je parlerai tout à l'heure de la difficulté d'entrer aux archives d'Air France. Effectivement, c'est tout un programme. je vais garder ça pour la fin. Voilà. Mais si vous regardez un peu les communiqués de presse d'Air France, notamment concernant les uniformes, les plus récents, notamment de 2005, la com, comme il s'appelle, les services de relations publiques, disent toujours « Ah, Air France a toujours représenté la mode française dans le monde ». Alors, c'est magnifique. Donc, dès 1946, quand les premières hôtesses arrivent, hop, ça y est, on projette la mode française. C'est pas mal quand même au lendemain de la guerre, on vous dirait. Alors, j'ai voulu examiner ça un petit peu, et je suis tombé tout à fait par hasard sur un ouvrage de 2004 que l'historien de la mode Florence Muller, qui maintenant, je crois, travaille aux États-Unis, avait écrit sur... en fait, les uniformes d'Air France, une histoire générale qui s'appelait « Élégance aérienne ». C'est un magnifique petit ouvrage, malheureusement un peu difficile à localiser. Mais évidemment, comme c'est une commande officielle, une commande d'entreprise, c'est donc une histoire officielle. Je ne mets pas en doute les recherches de Madame Muller. Hein. C'est simplement que quand vous faites de l'histoire officielle, après, la compagnie décide ce qu'ils veulent garder. Et ce qui est, parfois, c'est plus intéressant de trouver le déchet, mais je n'ai pas pu... consulter ça. Alors, mais bon, donc, je voulais examiner, en fait, si c'était vraiment le cas que Air France a toujours accompagné la mode française. Ça fait un peu plus de 70 ans maintenant qu'il y a des hôtesses françaises. Ce que je propose de couvrir aujourd'hui, là, dans les 15-20 minutes, c'est en fait les 35 premières années environ. Donc de 46 jusque vers fin des années 70-80, on peut parler un petit peu de ce qui vient après, mais c'est très intéressant ces 35 premières années-là, parce qu'en fait ça accompagne aussi la compagnie nationale jusqu'au moment où la dérégulation qui prend ses origines aux États-Unis commence d'arriver. La dérégulation, c'est ce qui fait que maintenant on peut s'acheter un billet d'avion à 20 € pour aller... un peu n'importe où. À l'époque, jusque dans les années 80, c'était pas possible, c'était beaucoup plus cher. Donc cette dérégulation, en fait, change la donne dans les compagnies aériennes et comment elles se présentent. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est plus intéressant de voir ces 35 premières années. C'était aussi plus facile de trouver des documents. On en parlera. Alors, comment aborder le sujet des uniformes et le sujet des hôtesses? D'abord, une petite explication très rapide. À l'origine, évidemment, les hôtesses, en fait, il n'y avait que des hommes jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas en Europe. Il y a quelques exceptions. La Swissair, en 34, par exemple, a une première hôtesse de l'air en Europe. C'est une grande première en Europe. Les Allemands et les Anglais en ont une ou deux, mais pas beaucoup. Les Américains, en revanche, United Airlines en particulier, commencent d'avoir des hôtesses de l'air dès la fin des années 20, début des années 30. Mais sinon, c'est toujours des hommes. Et vous le remarquerez, ce serait difficile de différencier ce monsieur de quelqu'un qui travaillerait, par exemple, pour les chemins de fer. Et en fait, c'est là, c'est à l'origine, l'idée, c'est de vendre le vol. Comment est-ce qu'on va convaincre les gens de monter dans un avion qui, à l'époque, est très inconfortable? Faut pas se fier de ce qu'on voit au musée de l'air. Ça, en fait, c'est très désagréable de voler à l'époque. Ben, on va dire, oh, ben, c'est comme dans le train, sauf que ça va plus vite. Donc, on a le service, en fait, du barman ou du steward, c'est littéralement l'expression qu'ils utilisaient, qui continue jusque dans les années 40. Et c'est à partir de 1945, quand Air France renaît à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'une décision est prise d'essayer de projeter autre chose, de faire en fait d'Air France non seulement le symbole de la France à l'étranger, comme compagnie nationale, mais aussi de développer toute une culture française. Il y a beaucoup de publications dès la fin des années 40 qui, en fait, parlent de mode, mais pas nécessairement de la mode des hôtesses, simplement de mode pour que les gens puissent suivre un peu qu'est-ce qui se passe en France, comment s'habiller, et ainsi de suite. Alors, pour en revenir donc aux uniformes, vraiment... J'ai utilisé le terme d'ambivalence dans mon titre, je l'explique très brièvement. Je l'emprunte évidemment à la psychologie, qui reflète les différentes phases de sensibilité du comportement. Qu'est-ce que ça a à voir avec les uniformes? D'un côté, quand on parle d'ambivalence, il y a le tabou associé avec le corps qui recouvre l'uniforme, le stéréotype dont j'ai parlé tout à l'heure. De l'autre côté, il y a l'autorité que l'habit confère, évidemment. Et donc, il y a cette ambivalence, elle amène ensuite une sorte d'attente d'un certain comportement. Je cite René Koenig, un sociologue suisse-allemand, qui a été un des premiers dans les années 60 à s'intéresser à une sociologie de la mode indépendante de ce qui était présenté, par exemple, au public. Et c'est lui qui dit, en fait, la société est faite d'interdits et d'obligations, ça nous régit, et donc l'uniforme, ça nous permet tout simplement, c'est un moyen d'expression de la hiérarchie sociale. Évidemment, ça se complique un petit peu quand il s'agit des hôtesses, parce que quand vous voulez, par exemple, demander à des jeunes femmes de devenir hôtesse de l'air, quel genre d'autorité voulez-vous leur vouer? L'uniforme, en fait, est à la base masculin. Donc, on leur donne une certaine autorité masculine, mais on ne veut pas non plus que ce soit trop ça, parce qu'en fait, on veut qu'elles fassent le service. Très vite, c'est identifié comme tel. Le service, en fait, vous devez être discret. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on va faire le truc de l'origine, la tradition du soldat, ou est-ce qu'on va faire quelque chose de très discret? Et ça, c'est un petit peu la difficulté. L'historien anglais Peter Leith, qui a aussi écrit un petit peu sur les hôtesses de l'air, note que c'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire qu'on veut que l'hôtesse de l'air s'occupe de nous, nous rassure, on la veut un petit peu en maman, et en même temps on la voudrait peut-être moins en maman et plus en copine. Donc, comme le remarque le professeur Leith, en fait tout ça, c'est les évolutions et ces tendances, ces ambivalences, c'est parce que le but, en fait, ce n'est pas de présenter la femme, c'est de vendre le vol. Voilà. Et pour cause, même après la Seconde Guerre mondiale, c'est encore difficile de voler confortablement. Les vols coûtent très cher de toute façon, donc il faut faire un service magnifique et évidemment, il faut former les jeunes femmes à ce genre de travail. C'est là que l'on entre dans le vif du sujet. Est-ce qu'il faut un style américain ? Que vous voyez à gauche, je ne sais plus si c'est une hôtesse de la TWA ou de Delta Airlines. C'est une photo posée, évidemment, mais un échange à New York entre deux hôtesses. Voilà. Où est-ce qu'on veut son propre style bien français? Qu'est-ce qui projettera la femme française? Et donc, on va faire ça en trois phases, très rapidement. La première phase, 46, la construction de l'image. Okay. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on attend d'elle? En fait, le terme même d'hôtesse de l'air, hôtesse, suggère en fait un peu une maîtresse de maison. Et c'est à ça que ça va en venir. Il va y avoir en fait un peu une séparation des domaines, séparation des sphères, comme l'utilisait le terme la professeure Michèle Perrault. Et évidemment, la jeune femme doit s'occuper de la cabine, et évidemment, dans le cockpit, vous n'avez que des hommes. Et ça va être farouchement gardé. En fait, Solange Catry, une des premières hôtesses d'Air France, remarque qu'il y avait en fait une opposition à l'arrivée de jeunes femmes dès 1946, et qu'en fait, toutes ces femmes ont dû se battre pour y arriver. Qu'est-ce qu'on attend, en fait, de ces jeunes femmes? Alors, il y a un mémorandum qui décrit l'hôtesse idéale à ce sujet. C'est écrit par Bernard d'Astorg. C'était un militaire en 1945, évidemment, mais en fait, il était aussi poète à 16 heures. Et c'est lui qui était chargé du recrutement et de la formation des premières hôtesses. Alors, il a 600 demandes, il en choisit 24, il y en a 11 qui finiront l'entraînement. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Alors, je cite. L'hôtesse doit être comme la mère qui apporte à manger et à boire, la grande sœur qui borde la couverture, l'infirmière qui s'occupe du patient, donc une grâce divine dont le regard protège du péril et fait fuir la peur. Vavoum, vavoum. Alors, bon... Dastorg a certes, on s'y attend, c'est un homme de son temps, mais il articule une vision profondément conservatrice du travail des femmes, mais il a paradoxalement rejoint l'attente typique de la classe bourgeoise de l'époque. Et donc c'est une jeune fille de bonne famille que l'on cherche. Et pour cause, les 11 sélectionnées en fait sont toutes des jeunes filles de bonne famille qui ont toutes leur baccalauréat, fort difficile à obtenir à l'époque. Et on attend des choses absolument remarquables d'elles. Solange Catry, qui est en fait malheureusement la seule des 11 survivantes de la première série à avoir vraiment écrit ses mémoires, le note, elle dit, on prenait des leçons allant du droit international à l'aérodynamique, la géopolitique, la lecture, et elle d'ajouter, comme si nous allions nous comporter dans nos fuselages comme Scudéry, Madame de Staël et la comtesse de Noailles toutes ensemble. Voilà. Ah bon, elle a écrit ça à la retraite, hein, comme ça elle pouvait quand même un peu donner une petite gifle à Air France pour ça. Mais bon, cette séparation des sphères, en fait, va se poursuivre, et ça se reflète aussi dans les uniformes. Alors, un premier uniforme, en fait, bon, les uniformes, évidemment, peuvent refléter leur temps, mais c'est aussi, représente dans un sens aussi cette recherche d'une identité qu'on n'est pas sûr d'avoir trouvée encore. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, dans cette première phase, on va juste en regarder un ou deux, on va pas faire tous les uniformes. C'est intéressant, mais moins dans ce cas-ci. Alors, Georgette Reynal est une des premières à produire l'uniforme. Et en fait, c'est pratiquement, avec quelques modifications, l'uniforme des convoyeuses de l'air, des jeunes femmes qui s'étaient portées volontaires à partir de 1944 pour aider à l'effort militaire. Certaines avaient même servi en Angleterre. Donc, on voit un petit peu cette influence militaire qui reste. Mais ça va être très vite modifié. Quoique l'hôtesse de l'air est tout de suite adoptée, vous voyez même sur la publicité des camemberts, voilà, ça c'est tout début des années 50, qui annonce en fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui commencent à s'intéresser à ça. Je dois expliquer qu'en 46, quand ils font l'appel à candidature, en fait, c'est quelque chose qui paraît dans le journal. Beaucoup de gens sont fascinés par la notion quoi, il y a des femmes qui vont pouvoir voler, et surtout à une époque où en fait la majorité des Français ne volaient pas. Mais dès les années 50, alors pour pallier justement aux besoins de la compagnie qui commence à, par exemple, projeter ses ailes en transatlantique, un nouvel uniforme paraît tout de suite. C'est l'uniforme en fait qui va dominer dans les années 50. Il sera modifié vers 52, 54. Je ne vais pas dans le détail là, mais vous avez en fait le site. Il y a un site officiel de la compagnie qui retrace tous ces uniformes, si vous voulez voir en termes de photographie et de commentaires généraux. Quel est où veut en venir Air France avec ça? En fait, ils ne savent pas trop. Par exemple, bon, effectivement, le style de Georgette de 13 épouse bien celui des années 50. Beaucoup de gens disent « Ah oui, mais peut-être que ce n'est pas trop confortable, mais qu'est-ce qu'on attend d'elle ?» Comme encore à l'époque, la plupart des vols sont en première classe, il n'y a pas encore de classe touriste. La classe touriste apparaît vers 1954 environ. Ça permet quand même de faire le service sans être trop stressé. À partir de 54-55, vous avez la classe dite touriste, qui n'est un petit peu différente de la classe économique comme on la connaît aujourd'hui, mais ça veut dire que vous avez plus de passagers, vous êtes en fait appelé à faire beaucoup plus. Que fait en fait l'hôtesse à l'époque dans ces uniformes-là? Bon, évidemment, elle va servir le repas, pas de surprise, elle veille à la sécurité, elle s'occupe des passagers, effectivement, leur amène ce dont ils ont besoin, et fait aussi la nounou. Les billets coûtent si cher qu'en fait les familles qui peuvent se payer des billets transatlantiques en fait donnent le bébé littéralement à l'hôtesse. Alors les images que vous avez des années 50 de l'hôtesse qui fait gligli au bébé, ben oui, c'est ça. Effectivement, ça existe. Ça change dès le début de ce qu'on appelle l'ère du jet. Donc vers 55, vous avez les premiers avions à réaction civile qui commencent à être testés. Air France voit une opportunité de se lancer. Ils passent une double commande énorme pour savoir dans l'époque. Ils achètent les Caravelles, les avions français, court courrier, et ils achètent les Boeing américains qui permettront à la compagnie, dès le début des années 60, d'être en fait une des plus avancées au monde. Mais qu'est-ce qu'on va faire? En fait, c'est là que vous voyez, c'est quelque chose de typique dans les compagnies aériennes, un changement, une évolution. Parfois, on change d'uniforme parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient. C'est la première fois qu'Air France le fait, ce ne sera pas la seule fois. Donc, avec l'arrivée du 707, la caravelle en 59 et le 707 vers 1960, il faut aussi un nouvel uniforme. Et c'est ainsi que Christian Dior dessine cet uniforme, qui sera très bienvenu, en fait. Il sera loué par les critiques, disant « Ah, c'est magnifique, ça représente vraiment la femme française ». En fait, c'est tellement populaire que même, pour ceux qui se souviennent de leur lecture d'enfance, Martine en avion a effectivement représenté... Monsieur Marlier, qui dessinait Martine, a représenté aussi l'hôtesse en costume Dior. Ça va très bien, mais bon, on se dit aussi, ah, mais il faudrait peut-être, c'est les années 60, et en fait, quand, en 1963, vous avez justement cette présentation de l'hôtesse. L'hôtesse est encore à l'époque célibataire, elle a la vingtaine, elle est aussi, évidemment, sélectionnée pour son joli visage, et non seulement pour ce qu'elle a dans la tête. Mais en fait, en 63, vous avez déjà une première attaque contre ces traditions. Il y a un steward, en fait, un homme qui, en fait, attaque Air France en justice parce que sa femme, il venait d'épouser une hôtesse, venait d'être mise à la porte. C'était automatique. Air France perd, fait appel. L'appel est confirmé en 67, pas pour des raisons d'égalité hommes et femmes, mais simplement parce que Air France était à l'époque une entreprise d'État. Donc la cour d'appel, en fait, dit non, Air France doit effectivement laisser les hôtesses mariées continuer de travailler si elles le veulent. Donc vous avez déjà ça, cette espèce de ferment qui commence, de ferment social qui commence d'arriver, ce qui fait que lorsque Air France décide de se moderniser plus et ils disent ah mais on va passer une nouvelle commande en 67-68, Air France a deux commandes qui vont arriver début des années 70. L'une, c'est le Boeing 747, absolument géant, qui transporte trois fois plus qu'un 707. Et l'autre, c'est le Concorde. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, et le Concorde, à l'époque, est prévu pour 70. Hein, il n'y a pas encore tous les retards. Eh bien, on va faire quelque chose de très intéressant. Voilà. Et ça, c'est en fait la dernière création, pardon, de Balenciaga. En fait, Balenciaga, on lui demande déjà en 67, ne voulait pas faire ça pour nous. Il dit, bon, d'accord, en 68, en fait, il ferme boutique. C'est le paradoxe, c'est qu'on a parlé de 68 le mois dernier dans le séminaire, mais en fait, en 68, quand cet uniforme paraît, c'est la première fois qu'il y a, en fait, un soulèvement de la part des hôtesses de l'air. Elles refusent, en fait, l'uniforme. Elles le trouvent absolument ringard, très peu pratique. Elles ne l'aiment pas du tout. En plus, à l'époque, elles disent « Mais pourquoi vous ne nous avez pas demandé qu'est-ce qu'on voulait ?» Et tout ça, comment est-ce qu'on le sait? Parce qu'en fait, ça devient un débat public. C'est très rare, mais il y a un débat public. Et ça, en fait, ça accompagne, si vous voulez, la houle de 68. Et quand on compare, en fait, l'introduction de trois uniformes cette année-là, alors vous avez Balenciaga au milieu, même l'hebdomadaire Aviation Week, qui pourtant est déjà à son époque très technique, très orienté sur simplement des questions d'ingénierie, pas des questions de culture, en fait un tout petit foin dans un article très court, là. Il compare, par exemple, les trois nouveaux uniformes qui existent. Alors, El Al d'un côté, Balenciaga Air France au milieu, et puis une compagnie américaine, Continental Airlines, à droite. Alors, Continental est déjà passé au pantalon, et ils font même des trucs assez rigolos, c'est-à-dire que, par exemple, une hôtesse sur les cinq pour chaque vol qui va à Denver, qui est près d'une des grandes stations de sport d'hiver au Colorado, va mettre essentiellement une tenue de ski. Voilà. Ça, c'est le côté un peu américain, très original, essayant d'improviser. Chez El Al, on en est déjà à la mini. Chez Air France, on a l'impression que c'est 1959. Et c'est ça, en fait, la critique qui fuse. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est dans toute la presse, à gauche dans Le Monde ou dans Le Figaro à droite, tout le monde dit, ah, dites donc, ça, ils ont pas fait de progrès. Et vous voyez ça. Pendant ce temps, en France, alors ça, c'est Le Figaro qui dit le métier a vieilli de 10 ans, mais pas l'uniforme. Il montre, par exemple, les nouvelles tenues d'Air Inter dans la petite coupure. Et puis à droite, UTA. Alors évidemment, ça, c'est des trucs très années 70. Ça va tenir peut-être 2 ans au terme de coup de mode. Mais au moins, ça suggère que les compagnies aériennes essaient de vivre avec leur temps. Pas Air France. Si l'on regarde en fait les critiques réelles, il semblerait qu'en fait l'uniforme n'était pas trop désagréable à porter, les quelques témoignages qui existent. C'est-à-dire que en fait Balenciaga, qui dessinait évidemment magnifiquement et qui soignait son travail, comprenait tout à fait que les hôtesses avaient besoin de bouger. Mais le problème, c'est par exemple l'idée de rajouter les gants blancs, qu'il faut ensuite enlever, puis garder bien blancs pour ensuite les remettre à la fin du vol et dire au revoir aux passagers. Le chapeau qu'il faut évidemment préserver, ça prend de la place dans la cabine, etc., etc. Tout ça, en fait, c'était quelque chose de parfait, effectivement, en 59, mais moins en 69. Et c'est là que le bas blesse à Air France, et qu'en fait, ils vont apprendre leur leçon. Et que pour la prochaine tenue, inauguré en 1976 pour l'arrivée de Concorde, il demande à Jean Patou de dessiner quelque chose qui, en fait, soit agréable. Et, première chose, ils font attention cette fois-ci, ils écoutent leurs hôtesses. C'est la première fois que vous avez des hôtesses de l'air qui viennent voir, qui essayent de suggérer. Et en fait, cet uniforme va beaucoup plaire parce qu'il est agréable. Il reflète aussi relativement bien les années 70. En fait, il va être communiqué au reste de la flotte. À l'origine, c'était Concorde seulement, mais avec quelques variations de couleurs, ça va aussi passer au personnel au sol et au personnel de cabine dans les autres avions. En fait, avec cette phase 3 avec Concorde, c'est là qu'on peut voir qu'en fait la compagnie commence enfin de comprendre qu'un uniforme, c'est à la fois bon, quelque chose qui projette l'image de la compagnie, mais ça doit plaire aux employés, ça doit leur donner envie en fait, de faire partie, cette notion d'identité dont vous parliez si bien, et que donc il faut continuer dans cette ligne-là. Et on peut dire vraiment que c'est à partir de l'uniforme Concorde que Air France, en fait, vraiment tente d'accompagner la mode, tente d'apprendre les leçons du passé, que ce soit avec des uniformes multiples, demandant à Nina Ricci et Carvin, et un troisième, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, de faire plusieurs uniformes qui pourraient faire ce qu'on appelle du panachage, c'est-à-dire vous voulez mettre une certaine robe ou un certain chemisier, vous pouvez le varier avec autre chose. Une chose qu'il faut quand même donner du crédit à monsieur Balenciaga, c'est qu'il était le premier à offrir des accessoires. Avant ça, les hôtesses n'avaient pas de sac. Alors, il y en avait parfois qui arrivaient avec style un sac plastique, des choses comme ça, en fait, truc, c'est pas censé montrer aux passagers. C'est avec Balenciaga qu'il y a eu, en fait, cette mode des accessoires qui accompagnent, les chaussures qui accompagnent. Et ça continue, en fait, à partir de 87, Nina Ricci accompagne la revue de Concorde. Mais c'est seulement en 2005, avec Christian Lacroix, que les hôtesses ont droit au pantalon. Alors que c'est avec 30 ans de retard à peu près par rapport à même beaucoup de compagnies américaines traditionnelles. Américaines traditionnelles, je pense à la Pan Am, à la TWA. Que dire de tout ça si on regarde notamment sur la période dont j'ai voulu vous parler, de ces trois phases, 46 et puis ensuite le début du jet en 63, puis ensuite le mini fiasco avec Balenciaga. Eh bien, en fait, il existe un ou deux documents internes Air France qui l'admettent, qui disent non, Air France, en fait, n'a pas accompagné la mode pendant longtemps. Air France, en fait, a suivi la mode. Il aurait fallu faire du Dior, non pas en 63, mais en 53. Il aurait fallu, en 68, surtout pas Balenciaga, parce que Balenciaga, c'était beaucoup trop sophistiqué, il aurait fallu faire du Courrèges, etc., etc. Et on peut dire qu'en fait, c'est seulement à partir des années 80 que l'on commence à voir, disons, une sorte de réflexion de la mode française qui accompagne. Mais évidemment, on ne peut pas changer chaque année, surtout quand on a quelque chose comme environ 20 000 employés dans tous les secteurs. Cela dit, c'est important de considérer cette mode des uniformes parce que c'est ce qui en fait permet d'identifier la compagnie et de parfaire son image de marque. Ça accompagne en fait toutes les autres choses que les compagnies font pour se vendre. Par exemple, lorsque Air France a essayé de faire un petit peu plus simple dans les années 90, en disant par exemple à Carvin, on peut mettre peut-être quelque chose de plus simple, quelque chose de plus discret. En fait, beaucoup d'hôtesses et de stewards ont dit « Ah non, surtout pas, parce qu'après, les passagers ne savent pas qui je suis. » Donc, c'est un peu le paradoxe. C'est-à-dire qu'on se dit « Ah, je veux quelque chose de simple. » On pourrait presque penser à EasyJet. Vous avez tous vu EasyJet. Bon, EasyJet a toujours des trucs tout à fait standards. En fait, on pourrait presque les mettre, sauf que c'est de l'orange. Alors évidemment, vous n'allez pas mettre ça en ville, mais en même temps, ça vous dit, ah bah, truc décontracté, mais on sait l'identifier. Alors c'est, en fait, c'est là qu'Air France a appris ça. Donc avec en fait, du retard comparé à la publicité des relations publiques, ils commencent en fait d'accompagner la mode, mais ce n'était pas en fait leur but premier. Leur but premier, en fait, dans une autre histoire, ça a été la bouffe. Ça a toujours été ça, mais pas tellement les uniformes de compagnie aérienne. Alors voilà, je termine là et puis j'ouvre à vos questions. Merci beaucoup.
Bien noté.
Alors ça m'a pris 6 mois la première fois il y a 4 ans. J'ai enfin reçu un coup de fil de quelqu'un qui s'est révélé très aimable, qui m'a même donné un petit entretien oral sur certaines choses par rapport au Concorde auquel je m'intéresse aussi. Mais ensuite, quand j'ai voulu réessayer là, dans le courant de l'été, on m'a dit « Non, d'abord, vous lisez tout ci, tout ça, ce qu'on a ici, etc., ce qui est en ligne. Après, vous venez nous voir. » Alors j'ai appelé quelqu'un que je connaissais, qui est un ancien pilote de Concorde, que je connais depuis longtemps. Il dit « C'est quoi cette histoire ?» Et l'explication pour tous qui pourrait vous intéresser, c'est qu'en fait, il y a 2 archives Air France. Alors, il y a celle qui est à Vieille Poste, Paray, en fait, Orly, Paray, Vieille Poste, voilà. Ça, en fait, c'est l'archive, ce qu'on appelle de la com. C'est-à-dire, c'est Corporate Archives, c'est ce dont, en fait, toutes les belles publicités, par exemple, Air France retire parfois des anciennes images, etc., c'est ce qu'eux contrôlent pour les besoins de la compagnie. Ce qu'on peut tout à fait respecter. En fait, beaucoup de compagnies ont ça. Lufthansa, British Airways, etc., mais c'est complètement séparé et contrôlé, comparé à l'archive qui est faite par les volontaires. En fait, c'est tous des bénévoles qui se trouvent aux Invalides et qui vendent, par exemple, de 3 produits, quelques bouquins, etc., pour essayer de continuer de tourner et qui ont évidemment un soutien de la compagnie, mais c'est un soutien partiel. Donc, parfois, ils reçoivent un joli dossier, ils peuvent le mettre. Parfois, ils ne reçoivent rien du tout. Parfois, vous allez consulter un dossier... Comme je l'ai dit, 4 mois, 6 mois avant de pouvoir y entrer. Et en fait, c'est que des communiqués de presse que j'aurais pu trouver aux archives nationales, par exemple. Donc, il faut faire beaucoup de tri là. Pour Air France, je n'ai pas encore essayé ça, mais je sais que pour les archives, pour les archives suisses, j'ai eu plus de succès où trouver, par exemple, des publicités suissaires et de la correspondance suissaire sur la publicité, il suffisait d'aller au ministère des Finances. Évidemment, il fallait bien que quelqu'un paye tout ça. Donc, en fait, il y avait toujours des reçus et c'est là que ça m'a aidé. Mais il faut, en fait, être très créatif pour pouvoir y avoir accès et beaucoup de patience. Et en fait, c'est une fois que cet ami, ancien pilote de Concorde, m'a expliqué ça, il m'a dit qu'il appelait. Il ne pouvait pas intercéder, il est à la retraite de toute façon. Mais c'est à partir de là que j'ai pu avoir un bref accès et à une certaine quantité de rayons. Pas d'autres. Et par exemple, j'ai promis de revenir dans 3 mois pour voir Concorde.
Oui, bonjour. Concernant Air France, il n'y a jamais eu de spécialisation au niveau visible dans l'uniforme. Je pense par exemple au cas que vous avez montré de l'uniforme de l'UTA de A273 dessiné par Courrèges. Oui. La version rose correspondait aux hôtesses enfants. La version bleu ciel aux hôtesses classiques. Il n'y avait pas d'élément de reconnaissance à défaut d'uniforme propre pour les hôtesses chargées d'un type de public ou de clientèle.
C'est juste. Air France n'a pas voulu faire ça. Air France, c'est si vous êtes formé comme hôtesse ou steward, vous pouvez tout faire. C'est ça l'idée. Et en fait, l'idée, c'est que vous êtes en fait, on peut vous reconnaître directement comme ah, c'est quelqu'un, c'est du personnel de cabine, le personnel navigant cabine, PNC. UTA, c'est bon. Là, je me remets peut-être un petit peu hors du sujet, mais UTA a toujours essayé d'être très créatif. Mmh. C'était une culture de compagnie très différente, ce que m'ont dit certains retraités d'UTA. Et la fusion entre UTA et Air France, dans un sens, a été une catastrophe parce que vous aviez les seniors Air France. Je n'insulte pas Air France, hein, simplement c'est un fait. Air France, ils sont toujours vus comme des seigneurs, avec à voir les mouvements de grève. Okay, c'est pas une critique non plus, c'est juste la façon de traiter. Avec UTA, c'était un truc beaucoup plus détendu, je dirais presque à l'anglaise ou à l'américaine, à l'anglo-saxonne. Et le choc entre les deux, et la même chose avec Air Inter, a été énorme. Et ça se reflète aussi un petit peu dans ces
uniformes. C'est vrai que le pantalon de Courrèges faisait un tellement plus joli cul.
Moi, j'ai juste une information, ça n'est pas une question. En 2001, Marité et François Girbeau, qui sont donc non pas des hauts couturiers, qui sont juste des couturiers, oui, de prêt-à-porter, ont été sollicités par Air France pour créer des costumes. Ils ont, enfin, toute la flotte, en fait, hein, de l'hôtesse, ouais, de l'air jusque, ouais, le personnel navigant et personnel de sol. Ces costumes ont été créés jusque le prototype et jusque la validation, ouais, qu'ils existent. Il y a eu un changement de direction et M. Lacroix est arrivé. Donc le pantalon a été fait avant M. Lacroix, mais il est archivé. Alors cette information est confidentielle, elle l'a été pendant 10 ans, et aujourd'hui, plus rien ne nous empêche, j'ai, oui, envie de dire, peut-être pas d'en parler, mais en tout cas c'est une réalité, ces costumes existent, les dessins existent, les documents, les commandes, a été honorée, en plus elle a été payée.
Oui, mais, voilà, mais pas mis en
place. Mais changement de direction, Marité François Girbeau a été jugé pas assez couturier.
Voilà. Dommage. Merci.
En fait, ma question, c'est le costume du steward homme par rapport à tout ça.
Oui.
Est-ce qu'on retrouve la même différenciation assez marquée avec le pilote, avec le costume du pilote, ou est-ce qu'à l'inverse, on a quelque chose qui est plutôt proche et à ce moment-là, c'est vraiment la séparation homme-femme qui importe dans le costume ?
Alors, je me suis demandé, en fait, votre directeur de thèse pourrait en dire plus par rapport au pantalon, mais je pensais qu'en fait pour le steward c'était peut-être un petit peu ça, c'était la question que le steward peut encore porter le pantalon. Je n'ai pas précisé, mais en 46, quand l'hôtesse arrive, en fait elle supplante le steward, elle devient son supérieur et lui il est derrière aux cuisines, enfin façon de parler. Donc il y a déjà ça. La grande différence que vous voyez entre le steward et le personnel navigant, enfin dans le cockpit, c'est les galons. Donc on en reste un petit peu aux militaires, de cette façon-là, projeter l'autorité. En fait, ça, c'est une invention des Américains. Juan Tripp, qui était un des fondateurs de la Panam, une grande compagnie américaine qui a depuis disparu, il disait non, il faut qu'on impressionne tout le monde. Alors ils les faisaient tous mettre beaux uniformes, presque comme la marine américaine, en blanc avec des galons partout. Et ils montaient presque au garde à vous, dans leurs hydravions à l'époque ou dans leurs avions, et ça projetait justement ce sentiment d'être en sécurité. Et c'est pour ça que même maintenant, les compagnies en fait gardent ces galons pour différencier le pilote. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce qui est plus militaire, qu'est-ce qui l'est moins ? Alors pour les pilotes, ça dépend des compagnies. Lufthansa, on dirait des chauffeurs de bus. Et pour cause, parce que l'histoire de Lufthansa avec l'Allemagne, ils voulaient surtout pas qu'il y ait un rapport avec le passé. Donc encore aujourd'hui, vous voyez les uniformes de pilotes de Lufthansa, c'est assez moche. Désolé s'il y a des Allemands. En revanche, ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils ont fait pour essayer de féminiser l'habit masculin pour les pilotes, les femmes pilotes. Alors la solution souvent c'est d'éliminer en fait la cravate et de mettre une espèce de nœud un peu particulier, et puis en fait de trouver quand même quelque chose qui épouse mieux, pas nécessairement qui épouse mieux, mais surtout qui soit plus confortable pour les femmes pilotes, mais ça varie beaucoup.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Quand je pense à Air France, moi je pense toujours aux hôtesses en bleu. Oui. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de photos en noir et blanc. À partir de quand les couleurs, apparaît une autre couleur ? Parce que quand on dit Air France, moi, c'est toujours bleu.
C'est une très bonne question. En fait, la période que j'ai couvert en un peu plus de détails, c'est toujours bleu. Bleu marine, variation de bleu. Et c'est seulement à partir de Jean Patou que vous avez toujours du bleu, mais plus pâle, ou bleu ciel.
Et la robe à rayures de Jean Patou, elle était dans quelle couleur ?
Oui, il s'est fait taper dessus pour ça. Mais il a du rose pâle, mais très très peu. Oui, voilà. Il essaie, tout comme Dior a du bleu ciel, mais c'est toujours des variations de bleu. Et le
et
par exemple, les gabardines, les choses comme ça, sont toujours foncées. Vous avez raison, effectivement. Je dois vous expliquer. Je suis daltonien. Alors je devine les couleurs, mais je ne les vois pas bien. Alors, merci de me le rappeler.
Pardon. Oui, la robe rayée de Jean Patou, elle est dans quel ton ?
Il me semblait qu'elle était dans les tons rose ou rouge, mais je ne suis pas sûr, vous savez.
Ah oui, bleu blanc, moi c'est ce que je dirais. C'est ce que j'allais dire aussi.
Ça se retrouve tout de suite, oui. Si quelqu'un a...
aussi. Bleu blanc rouge. Oui, je pense l'avoir vue et je pense qu'elle est bleu blanc rouge aussi.
C'est possible, d'accord.
En tout cas, nous, pour le cahier des charges, je suis bleu blanc rouge.
Ah oui.
Ah, il y a un cahier des charges.
Oui. Ça, c'est sûr. Oui, c'est fascinant, ça. Oui. Les charges données par la Rive Blanche. Oui. La 3, le haut, c'est des nuages. Oui.
Oui. Le blanc rouge.
Voilà. Voilà, un tout petit peu quand même.
Oui, c'est moi. J'avais entendu dire que les premières hôtesses de l'air, en fait, étaient des infirmières. Et oui. Que du coup, elles étaient en tenue d'infirmières. Donc, jusqu'à quand parce que justement, ça rassurait aussi les gens qui avaient peur de prendre l'avion. Et, oui, et donc, on assimilait l'hôtesse de l'air à une infirmière qui pouvait donc rassurer les passagers.
Alors, dans les années 30, elles sont. Dans les années 30, où elles, par exemple, aux États-Unis, elles ont toutes une formation d'infirmière où elles étaient anciennes infirmières. Et l'idée, c'était. Hein ? Alors, elles n'avaient pas l'uniforme d'infirmière, mais elles avaient l'uniforme qu'elles avaient emprunté à l'armée, en fait, retint pour donner le change. Parce qu'en fait, Air France, en 45, n'a pas un sou. Enfin, l'État est complètement. Il n'y a rien. En fait, on vole même sur du matériel allemand à Air France à l'époque. Il y a très peu de matières premières, donc ils récupèrent les anciens uniformes militaires. En 46, la première solution que vous voyez là, c'est une solution intermédiaire. Et en fait, d'ailleurs, de 46 à même 48-49, les hôtesses doivent payer leurs uniformes. Et c'est seulement à partir de 49-50 qu'il y a une renégociation. Et qu'on leur prête l'uniforme à la limite. Et au bout de 2 ans, il leur appartient complètement. L'assimilation à l'image de l'infirmière commence à disparaître, mais elle reste assez forte, en fait, jusqu'au milieu des années 50. Et ça, c'est parce que c'est parce qu'encore au début des années 50, beaucoup d'avions volent pas plus de 3000 mètres. Donc, en fait, c'est très inconfortable. Beaucoup de passagers sont malades. Donc c'est les hôtesses arrivent, un petit truc, etc., une pilule, voilà. Donc effectivement, c'est l'idée qu'elles vont être infirmières, c'est ça.
Est-ce qu'il y a une dernière question ?
Est-ce que la question des archives, l'accès aux archives, est la même pour les accès aux archives d'Air Liberté ou Air Inter, je ne sais pas comment on les appelait au départ.
Alors c'est toujours la question des archives privées ou archives d'entreprise. Qui a récupéré quoi ? Je vous donne deux exemples. Pendant plusieurs années, j'ai pu aller à la Lufthansa à Cologne. Et il y avait un petit archiviste qui récupérait tout ce qu'il pouvait. Et puis, je dois dire, c'est un peu stéréotype, mais c'était organisé à l'allemande. Donc, vous vouliez voir tel ou tel machin, et c'était là. Voilà, c'était facile, c'était clair. Bon, il était aussi très, très difficile à négocier. C'était difficile de négocier avec lui, mais c'était ouvert. Il avait ses heures de voiture. Il a pris sa retraite. Ils ont passé ça en corporate, c'est-à-dire à la com. Donc, c'était à Francfort maintenant. Je ne sais pas si c'est accessible. British Airways, pour l'instant, c'est ceux qui font le mieux. Vous allez à Londres, bon, vous devez payer un per diem en tant que chercheur, mais ils ont des archives, ils les mettent à votre disposition. Les compagnies qui sont parties en faillite, je ne sais pas. J'en parlais tout à l'heure, j'essaie d'avoir accès aux archives de Swissair. Le problème, c'est que certaines sont accessibles au poly de Zurich, mais la plupart, pour l'instant, sont encore bloquées parce qu'il y a tout le processus de liquidation qui va prendre encore au moins une dizaine à quinzaine d'années. Donc c'est le coup de bol. En fait, pour toutes les archives d'entreprise, vous allez avoir ce genre de problème. Certaines entreprises sont mieux que d'autres pour ça, et il faut espérer avoir de la chance, quoi.
Et là, là, vous avez consulté des documents papier, mais est-ce que vous avez eu accès aussi aux pièces textiles ?
Non, les pièces textiles sont à Paris Vieille Poste.
D'accord.
Et justement, bon, pour moi, c'est moins intéressant. C'est-à-dire, ça serait intéressant pouvoir les toucher, pouvoir quand même voir un petit peu est-ce que cet uniforme de Balenciaga est vraiment si inconfortable comme les gens le disaient, ou est-ce que c'était une exagération parce qu'ils ne voulaient pas toutes les poches ou quelque chose. Ça serait intéressant de pouvoir voir ça.